Bienvenue sur Carrière de parents, le podcast qui décomplexe la parentalité dans le monde de l'entreprise. Je suis Delphine et j'accompagne au quotidien les services de ressources humaines et les dirigeants dans la mise en place de leur projet parentalité pour leurs salariés. Dans chaque épisode, nous explorerons comment allier au mieux votre vie familiale et votre vie professionnelle. Nous verrons ensemble toutes les solutions qui s'offrent à vous pour faciliter votre quotidien et vous permettre d'atteindre vos objectifs pro et perso. Pour cela, un jeudi sur deux, je vais partager avec vous des astuces et bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Mais avant toute chose, mettez le podcast dans vos favoris pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour David.
Bonjour Delphine.
On est super content de te retrouver pour cet épisode de Carrière de parents. Alors dans un premier temps, David, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, David ?
Alors, merci à toi de m'offrir cette opportunité, cet espace d'expression. C'est déjà la première chose que je voulais te dire. Et donc, je suis David Paris, traducteur d'émotions. Je suis sur la région de Nantes. Je suis papa d'une petite fille et trois beaux enfants, marié avec Vanessa. Et depuis septembre 2021, je développe la société Équilibre qui propose d'accompagner les adultes et parents et futurs parents à la sensibilisation aux émotions.
D'accord. Ce que tu me disais, c'est que tu te définis comme un traducteur d'émotions. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ?
Tout à fait. Traducteur d'émotions, alors ça, c'est un terme qui est cher à mon cœur parce qu'il a fait beaucoup de débats dans mon entourage, des gens qui disaient « mais on ne comprend pas ce que c'est un peu trop compliqué, etc. » Et j'ai tenu bon parce que j'aurais pu écouter les avis des uns et des autres, et je trouve que ce terme est avant-gardiste parce que déjà il n'y a qu'un traducteur d'émotions sur par exemple la plateforme LinkedIn sur laquelle je suis principalement traducteur d'émotions. Le principe c'est que en écoutant l'histoire des personnes qui décident d'être accompagnées par moi, j'arrive à les aider à comprendre les émotions qu'ils vivent aujourd'hui. Un petit exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de colère dans son quotidien, qui s'énerve pour tout et rien. Cette personne, si elle vient me voir parce qu'elle a identifié que voilà, c'est plus possible, je ne peux pas continuer de vivre mon quotidien avec une colère aussi intense en moi, elle vient me voir pour essayer de comprendre pourquoi cette colère est aussi présente dans son quotidien et dans sa vie. Et le but, en tout cas ça c'est moi à la base, le but c'est d'éviter que ces émotions refoulées depuis trop d'années se répercutent sur les enfants ou futurs enfants. Je précise parce que je n'accompagne pas que des parents, j'accompagne des adultes. Il y a aussi des gens qui décident de faire du travail sur eux avant d'avoir les enfants, comme ça le jour où ils ont les enfants, ils ont les clés en main pour pouvoir éduquer leurs enfants de la manière la plus saine et la plus sereine possible. Est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, tout à fait. Mais du coup, moi, je me pose une question. Comment est-ce qu'on devient traducteur d'émotions ? Qu'est-ce qui a fait dans ton expérience que tu as souhaité t'orienter vers ça, pour les adultes, pour les parents ? Qu'est-ce que ça a été finalement le déclencheur de ce changement dans ta vie ?
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. C'est une multitude de choses, je t'explique. Donc, je suis anciennement, je suis toujours ingénieur, j'ai toujours mon diplôme. J'ai travaillé pendant 22 ans dans l'ingénierie électronique. Et à un moment de ma vie, c'était en 2019, je commençais à avoir des problèmes de santé, alors rien de très très grave, mais j'avais des reflux gastriques par exemple, qui commençaient à devenir assez agaçants au quotidien, et à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas, donc je mangeais des médicaments, du omeprazole et puis du gaviscon pour traiter ça, mais sauf que ça n'était pas efficace, le médecin ne m'aidait pas beaucoup sur cette problématique, et à un moment donné je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je savais ce que c'était mon boulot.
En fait, c'est ton corps qui te disait, là, ça ne va pas.
Exactement, c'est mon corps qui commençait vraiment à et ça, j'insiste sur ce que tu viens de dire parce que c'est très important, je préciserai après. C'est mon corps, effectivement, qui commençait à me dire, David, il y a un truc qui ne va pas, il faut reprendre les rênes de ta vie en main. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2019. J'ai commencé à me dire, David, comment tu peux reprendre le lead sur ta vie pour te sentir bien dans ta tête, dans ton corps et dans l'accomplissement de toi et l'accomplissement de ta vie. Donc après, j'ai tout un cheminement. En 2019-2020, j'ai commencé le marketing de réseau avec le produit de santé bien-être que j'avais découvert qui m'a permis de soigner mes problèmes de reflux gastrique. Donc pas de la médecine, hein, c'était du substitut alimentaire. Et ce marketing de réseau m'a amené à découvrir le développement personnel. Donc j'ai rencontré un coach à ce moment-là. Et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai découvert un univers, un monde dans lequel je me suis complètement reconnu, c'est-à-dire la bienveillance, le partage, l'envie d'améliorer la société, l'envie de grandir, humainement parlant.
Parce que ça, c'est quelque chose que tu avais au fond de toi, mais qui, quelque part, tu ne le faisais pas ressortir.
Alors, mes traits de caractère étaient là, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de toujours à l'écoute et à l'attention des autres. Ça, ça a toujours été moi. J'ai toujours été comme ça depuis tout petit. J'ai toujours eu cette étiquette, parce que c'est même pas forcément moi qui en étais conscient. Moi, j'étais qui j'étais, j'étais moi-même. Mais c'est vrai que beaucoup de gens me disaient tout le temps, David, il est bienveillant, David, il est toujours à vouloir aider les autres, etc. Donc, c'est vrai que me retrouver dans le développement personnel, c'était presque une évidence au final, quand ça s'est produit, de me sentir à ma place. Quoi.
D'accord.
Ce développement personnel m'a amené à me questionner sur ma place professionnelle, et c'est là que toute la question de changer de corps de métier s'est posée, et j'ai eu une opportunité qui s'est proposée à moi, c'est-à-dire de quitter mon métier d'ingénieur pour devenir accompagnant, en tout cas travailler dans l'accompagnement bien-être. Mmh. Donc j'ai fait une formation coach pendant tout 2021 avec l'école MHD de Marilyn Dini. J'ai été certifié coach en septembre 2021 et décembre 2021, j'ai démarré ma société Équilibre Coaching. Et tout 2022-2023, j'ai cherché à développer ma posture de coach et savoir un petit peu quel style de coach j'étais.
D'accord.
Parce que des coachs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le marché. À un moment donné, il faut savoir se différencier. On ne peut pas travailler sur tout, on ne peut pas travailler avec tout le monde. C'est juste pas possible. Donc, il faut savoir se spécialiser un peu. Et quelque part, c'est venu naturellement à moi, sur le sujet des émotions. Et la traduction des émotions, c'est quelque chose qui découle aussi de ma personnalité et de mon ancienne histoire d'ingénieur. Je suis quelqu'un qui adore réparer. Enfin, j'adore réparer les objets, par exemple, les objets du quotidien. J'aime comprendre comment fonctionnent les objets. J'aime les réparer quand ils sont en panne. Et naturellement, bah, ça s'est reporté sur l'humain. J'adore comprendre l'humain, pourquoi l'humain d'aujourd'hui ne va pas bien et l'aider à aller mieux. Donc, c'était presque une suite logique en termes de capacité à apporter à l'autre, d'où le traducteur d'émotions qui est venu comme ça. Mmh. En fait, le but d'Équilibre, c'est d'accompagner des gens pour que les générations futures aient un environnement qui soit plus sain que celui d'aujourd'hui, en passant par les émotions.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que quelque part, ce qu'on reproduit sur nos enfants, nos futurs enfants, les futures générations, c'est quelque chose que nous, on a potentiellement vécu, c'est quelque chose qui nous a atteint?
Exactement. C'est tout le message que je délivre avec Équilibre. C'est que depuis de trop nombreuses années, on a enfoui les émotions sous le tapis. On a dit que les émotions, c'était de la faiblesse. On a dit que les émotions, fallait les contenir. C'est pas bien de se mettre en colère parce que c'était pas crédible. C'est un petit garçon qui pleure. Voilà. C'est pas très fort, un petit garçon qui pleure. Une petite fille en colère, c'est pas beau. Mm-hmm. D'avoir peur, bah, t'es une mauviette. Enfin, tu vois. Plein de choses comme ça. Plein d'injonctions qui ont été balancées à la société pour camoufler les émotions, parce que les émotions, c'est faut pas que ça se voit, quoi. Ça doit rester dans la sphère intime. Et bah, moi, quand je vois aujourd'hui l'état de la société, je mets en grande partie la responsabilité sur ça, d'avoir mis les émotions sous le tapis, parce qu'aujourd'hui, on n'écoute plus du tout les ressentis des gens, les émotions des gens, et du coup, on s'est complètement coupé d'un fonctionnement qui est natif chez l'humain. On perdure, on transfère ces fonctionnements d'ignorer les émotions. C'est pas déconnant de voir que dans une même famille, des gens qui grandissent avec l'idée de la perfection à tout point de vue, bah, ça se transfère sur les enfants, et les enfants des enfants, les enfants des enfants, les enfants des enfants. Alors, je dis pas que la perfection, c'est mauvais, mais ce que je dis, c'est que la perfection, il faut savoir la placer quand elle est mmh. utile. On n'a pas besoin d'être parfait partout. Alors, ça, c'est un des sujets que j'aborde dans mes accompagnements, c'est les fameux drivers en psychologie, dans le fonctionnement neurologique, avec des injonctions qu'on a reçues quand on était petit, qui fait que quand on arrive adulte, ben, on est quelqu'un d'hyper exigeant avec soi-même et avec les autres, parce qu'on a été éduqué mmh. comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans notre environnement aussi. Et je précisais donc parents, et pas que les parents, donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, et j'accompagne des gens qui ont cette sensibilité de se dire, moi, j'ai envie de participer à l'amélioration de la société et faire en sorte que les générations futures vont grandir dans des environnements qui sont plus sains et plus apaisés que ce qu'on vit aujourd'hui.
Ok. Et en quoi est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça contribue à créer un environnement familial qui est plus sain et plus équilibré ?
Eh ben, moi, je suis convaincu qu'en écoutant les émotions, c'est-à-dire qu'en prenant en compte que les émotions, c'est un fonctionnement intrinsèque à notre cerveau, et que c'est pas là pour rien, ça vient vraiment nous dire quelque chose. Je peux te faire un petit topo assez rapide pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des émotions. et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur moi en 2019 quand j'ai mon corps qui commençait à parler, on va prendre la métaphore du, parce que c'est assez parlant, la métaphore du tableau de bord sur une voiture. Tableau de bord sur une voiture, on a plein de petits warnings qui sont éteints, et quand on a un warning qui s'allume, c'est que le moteur va pas bien, ou il y a un truc qui va pas bien dans la voiture. Il y a des gens qui paniquent tout de suite, oh là là, le voyant, paf, ils s'arrêtent tout de suite, parce que pour eux, c'est, voilà, c'est dangereux, donc on s'arrête. Et il y a d'autres personnes qui, eux, bon, bah, la voiture, elle continue de rouler, il y a rien qui, bon, d'accord, il y a un warning qui est affiché, mais la voiture, elle continue de rouler, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier, c'est juste un petit voyant qui ça, enfin, voilà, ça avance tout le temps. Bah, la voiture, le voyant, il va rester allumé tant que la panne n'est pas traitée, sauf que bah, les personnes ne font pas les réparations parce que, bah, comme je te dis, la voiture continue...
Oui, jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
Voilà, à un moment donné, bah, la voiture elle va continuer à traîner cette panne, là, enfin, ce truc qui ne va pas bien, et ça va dégrader la voiture. À un moment donné, la voiture bah, elle s'arrête. Quoi. Et bah, le corps humain, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le cerveau, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce que tu vis, dans ton environnement, c'est surtout l'environnement hein, qui nous titille, qui nous envoie plein de stimuli, eh ben, le cerveau va t'envoyer des émotions pour te dire là, il y a un truc qui ne me convient pas. Donc, il va t'envoyer la colère quand tes limites ou tes valeurs ne sont pas respectées ou tes besoins ne sont pas respectés. Il va t'envoyer la tristesse pour te dire ah, attention, là, tu as vécu une expérience sur laquelle tu n'as pas de contrôle, sur laquelle tu ne peux pas changer les choses. Je t'invite à pas trop t'enfermer dans ce truc pénible au risque de t'enfermer dans des trucs un peu plus... un peu plus costaud qui sont la dépression, la mélancolie et j'en passe. La peur, bah la peur c'est ça c'est une des émotions les plus ancestrales qui soient, c'est celle qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, être humain, c'est celle qui nous a permis de fuir devant, de fuir ou d'affronter le danger suivant comment on a mesuré le degré de danger. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a permis de garder l'intégrité physique du corps humain et de faire en sorte qu'on a pu se développer depuis tant et tant d'années. La joie, c'est une émotion qui est magnifique. C'est le cerveau qui te dit, là, ce que tu viens de faire, c'est top. C'est top pour ton équilibre interne. Ça, c'est génial. Reproduis-le au maximum parce que ça bénéficie à ton équilibre à toi interne et aussi à partager aux autres cette fameuse joie qui fait que la société tourne bien. Après, il y a la surprise et le dégoût qui sont effectivement deux autres émotions qui ont été rajoutées dans le panel. Le dégoût, bah, ça, c'est plus une intégrité physique. À la base, c'est physique, on s'éloigne de ce qui potentiellement peut nous intoxiquer. Ça se décline aussi sur des dégoûts au niveau psychologie. On s'éloigne de choses qui nous créent un malaise interne. Et la surprise, elle est un peu particulière parce qu'en général, c'est une émotion qui est suivie par une autre. C'est-à-dire que la surprise, le cerveau te demande de faire une espèce de reset de ce que tu t'étais imaginé d'une situation. Tu t'attends à une situation en particulier, tu t'es fait un schéma dans ta tête de comment les choses allaient se passer, et puis finalement, bah, grosse surprise, ça se passe pas du tout comme tu t'avais imaginé. Bah là, ton cerveau t'envoie ce petit warning pour te dire, hop, hop, reconsidère la situation de façon à t'adapter, et pas à être en panique et à prendre d'autres émotions. Ça peut être suivi par la peur, surprise suivie par la peur, parce que, ah bah tiens, je m'attendais pas à ça. Surprise, ça peut être suivi par de la joie, ah, surprise, génial, moi je m'attendais pas à ça. Surprise, ça peut être suivi par de la colère aussi derrière, ah, moi je m'attendais pas à ça, grosse colère, non, c'est... Il y a toujours une autre émotion qui suit derrière. Et après, bon, si on aborde le sujet des émotions, il y a des choses beaucoup plus complexes, et en particulier les émotions raquettes. Celles-ci, j'aime bien les mentionner parce qu'elles sont très importantes. Il y en a une qui est très symbolique, c'est la colère. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en colère dans notre société parce que ces hommes, on leur a interdit d'être tristes. Parce qu'un homme triste, c'est une mauviette, donc ils ont été élevés comme ça. Et donc, comme une émotion, de toute façon, l'émotion a besoin de s'exprimer, eh ben, le cerveau a décidé de l'exprimer d'une autre manière, parce qu'il faut que ça sorte. Donc, au lieu de pleurer, ben, c'est la colère qui s'est développée. Okay. Ce qu'on appelle les émotions raquettes, on remplace une émotion, le cerveau remplace une émotion par une.
D'accord.
De la mécanique, dans les grandes lignes, hein, je ne suis pas non plus un expert full sur le fonctionnement du cerveau, mais en tout cas, les principes de base des émotions, c'est ceci.
Ok. Et du coup, toi, tu as une approche particulière pour aider les adultes et notamment les parents à transformer leurs relations avec leurs enfants ?
Alors, j'ai une approche particulière. Alors, oui, forcément particulière, puisque c'est l'approche David Paris avec cette dénomination de traducteur d'émotions. J'utilise plusieurs outils que j'ai dans ma boîte à outils pour aider les personnes à appréhender leurs émotions et la compréhension de leur fonctionnement, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre les choses et c'est ce que je délivre dans mes accompagnements. J'aide les personnes à comprendre qui ils sont aujourd'hui, pourquoi ils fonctionnent comme ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important de comprendre le point de départ si on veut aller vers un point un peu plus loin, quoi. C'est le principe du coaching. On part d'un point A et on va vers un point B. Pour moi, c'est important de connaître le point A précisément. Et là, du coup, on va les regarder en passé. C'est plus de la thérapie. Essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait que David Paris aujourd'hui, pas aujourd'hui, parce que moi, j'ai fait du travail sur moi depuis quelques années, mais à l'époque où j'étais quelqu'un qui était très en colère, bah, d'essayer de comprendre d'où venait cette colère. Qu'est-ce qui animait cette colère? Alors, il y a des trucs en surface. Oui, bah, t'es pas heureux dans ton boulot, donc t'es en colère. Ouais. Mais ça, c'est à la surface, en fait. Si on va creuser un peu plus loin, il y a d'autres choses derrière. Il y a mon enfance. Donc, tout à l'heure, tu me posais la question, quel était mon cheminement et pourquoi traducteur d'émotions? Je suis un enfant qui a grandi dans un contexte familial de 5 enfants. Mes parents divorcés très, très jeunes. J'ai pas grandi du tout avec mon papa. Ma maman était fortement alcoolique. Donc, j'ai développé des caractéristiques psychologiques qui sont, par exemple, ce qu'on appelle un monsieur costaud. C'est-à-dire que dès l'âge de 13 ans, j'ai dû être autonome. J'ai dû prendre le rôle d'adulte que ma maman ne prenait pas à la maison. Moi, j'ai dû prendre le rôle d'adulte à sa place. Donc, j'ai développé ce qu'on appelle un monsieur costaud. C'est je ne suis jamais mieux servi que par moi-même. Je suis fort. En plus, je suis un homme, donc je suis fort. Je dois subvenir aux besoins, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les drivers. Ça fait partie d'un de mes outils. J'apprends, je mets en conscience les drivers des gens. Donc, monsieur costaud, monsieur courageux, monsieur parfait, monsieur pressé et monsieur gentil. Bien évidemment, pendant madame, hein, là je dis monsieur parce que je parle de moi, mais il y a 5 drivers et ça c'est des choses qui se développent à force d'injonction, à force d'avoir vu des comportements dans notre environnement d'enfance et de vie, qui fait que on mimique parce que on a vu des parents qui étaient tout le temps dans le speed, du coup nous on est tout le temps dans le speed. Alors, c'est pas une généralité, hein, y en a qui arrivent à s'en sortir parce que voilà, ils vont accomplir.
C'est une sorte de personnage en fait que tu t'es construit, auquel tu dois t'identifier, tu reconnais ses codes et finalement tu dois suivre un petit peu le comportement attendu de la part de ce personnage.
Alors oui, exactement, alors, sauf que dans tes propos j'entends une espèce de conscience, mais les gens ne sont pas conscients de ça en fait.
C'est inconscient bien sûr.
Pour eux c'est moi, j'ai toujours été comme ça, moi je suis quelqu'un de speed, j'ai toujours été speed, c'est comme ça. Et quand tu leur expliques d'où ça vient, ah ouais, je comprends mieux. Alors l'idée c'est pas d'incriminer les parents et de jeter la faute sur quelqu'un.
Mais bien sûr, on fait tout ce qu'on peut.
C'est justement, les parents ont aussi vécu ça, et les parents des parents ont aussi vécu ça, et les parents des parents des parents, et c'est ce que je te dis tout à l'heure, on vit ça depuis des générations. Donc le but du jeu c'est de remettre tout ça à la juste place, c'est pas de les faire disparaître, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Quelqu'un qui par exemple a un monsieur parfait ou madame parfait très développé, l'idée c'est pas de devenir quelqu'un d'imparfait et de crado ou de brouillon dans ce qu'il fait. L'idée c'est de remettre les choses à la juste place, c'est-à-dire que dans une expérience particulière, là on a besoin, on a une exigence de qualité, donc on va aller dans cette qualité. Par contre, il y a d'autres moments, il y a pas besoin de qualité, c'est pas forcément utile d'avoir un degré de qualité tel que. Donc c'est vraiment rejauger les choses, et c'est pareil pour le costaud, le pressé, le gentil, etc. Le monsieur gentil par exemple, il est très symptomatique de notre société. Il y a des gens très symptomatique des fameux, par exemple, des burn-out, les brown-out, etc., tous les out qu'on a en professionnel, surtout les burn-out, c'est des gens qui se démènent à fond au boulot parce qu'ils ont envie d'être gentils, c'est des gens qui savent pas dire non, et du coup, ils finissent dans ces travers-là psychologiques. Donc, on leur apprend, avec les drivers, à relativiser et à replacer la jauge au bon endroit pour être écologique avec soi et être écologique avec les autres.
Oui, c'est bien de l'être, mais finalement, il ne faut pas que ça te pourrisse la vie.
C'est ça, exactement. C'est bien de l'avoir, mais il faut savoir le jauger au bon moment.
Oui, et le doser en fonction des situations.
Exactement. Donc ça, c'est un des premiers outils que je mets en conscience chez les gens. Le deuxième, c'est bien évidemment, c'est l'apprentissage des émotions, la mécanique des émotions, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'où viennent les émotions, comment elles fonctionnent. Et là, j'ai une technique un peu que j'ai appris, c'est le triple A. J'apprends les émotions par cette méthode du triple A, qui est la première, c'est l'accueil des émotions. Quand on a une émotion, faut surtout pas la rejeter, faut l'accueillir. Ok, je suis triste. Ouais, je sens que je suis triste. Avant, on prenait pas trop conscience de ça. Ah tiens, là j'ai une colère qui monte. J'en suis conscient. Je l'accueille. Ouais, je suis ok, c'est ok, c'est ok. Je suis en colère dans cette situation, c'est ok. Le deuxième A, c'est l'analyse. Maintenant, c'est bon. Ok, maintenant qu'on a accueilli l'émotion par rapport à avant, on était complètement dans l'inconscient. Là, maintenant, on a conscience des émotions, on voit qu'elles viennent, on les accepte. Elles ne nous définissent pas, et maintenant je vais essayer d'analyser pourquoi cette émotion elle est venue dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que cette situation a généré de la colère chez moi? Qu'est-ce qui fait que cette situation a généré de la tristesse chez moi? Qu'est-ce qui fait que cette situation a généré de la joie chez moi ou de la peur, etc. Donc ça, c'est là où j'interviens assez un peu plus profondément, parce que là j'apporte mon expertise de traduction par rapport à ce que je connais du passé de la personne, de ce que la personne m'a partagé dans son histoire. J'arrive moi à faire des liens qui permettent d'expliquer certaines choses et de relativiser, en tout cas de mettre en conscience le vécu de la personne. Et le troisième A, c'est l'adaptation. C'est une fois qu'on a accueilli l'émotion qu'on a compris d'où elle vient, comment elle fonctionne, qu'est-ce que je fais la fois d'après quand je suis face à une situation qui est à peu près similaire. Donc, l'idée, c'est passer de la réaction, qui est un fonctionnement assez classique avec les émotions, on vit une émotion, on est dans la réaction tout de suite, à l'adaptation. Donc, plutôt que de réagir face aux émotions, c'est comment je m'adapte pour que je vis plus sereinement cette expérience en prenant comme aide l'expression de l'émotion, quoi. Le fameux warning qu'il y a sur le tableau de bord de la voiture, bah là, hop, j'ai reçu un warning de mon cerveau, j'écoute ce warning, qu'est-ce que je fais pour que l'émotion s'apaise, en tout cas disparaisse, c'est bon, je valide l'émotion, je l'ai entendu, parce que je fais telle action qui fait que, du coup, le cerveau, il a compris, en fait, c'est bon, ah, il a entendu mon warning, il a fait une action qui va dans le sens de ce que je demandais, donc c'est bon, l'émotion disparaît. Et si on ne fait pas ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si on ne fait pas ça, si on n'écoute pas les warnings des émotions, etc., à un moment donné, le cerveau, il va en avoir marre, il va dire, ok, on va aller plus loin, là il ne m'écoute pas, quoi. Et bien, on va aller plus loin, et là, on va faire parler le corps. Et c'est là qu'on commence à avoir des douleurs dans le corps, des dérèglements physiques.
Et encore, faut-il écouter ses problèmes physiques, parce que parfois, on peut avoir des problèmes physiques, mais on essaie quand même de passer outre.
Ben, ça fait partie du premier A, quand je te dis accueillir les émotions. Dans le accueillir les émotions, il y a écoute ton corps, parce que tout commence là. Écoute ton corps.
Ah ouais.
Écoute vraiment ton corps, ce que tu ressens à l'intérieur, à l'extérieur, les douleurs, les boules au ventre, les cervicales qui sont stressées, les maux de dos, les mâchoires serrées, les acouphènes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que le corps est un messager, vraiment un messager de ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres concrètement actions que tu peux nous partager ?
Dans mes accompagnements, j'aborde le sujet des 5 langages de l'amour, qui est très important dans les relations humaines. C'est-à-dire que tout le monde ne perçoit pas l'amour de la même manière. Et ça, c'est sujet à conflit entre des gens, parce qu'il y a des gens qui pensent apporter de l'amour à quelqu'un, et l'autre ne reçoit pas l'amour comme il l'entend, et du coup, il a l'impression de ne pas être aimé, en tout cas, pas être considéré de la bonne façon. Et quand on sait quel est le langage de l'amour de l'autre, c'est beaucoup plus facile de se comprendre mutuellement, se dire « Ah ben là, tiens, elle a besoin que je lui apporte de l'amour, je sais comment le lui apporter à sa manière, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. » Donc, c'est un sujet que j'aborde pendant mes accompagnements. Après, il y a 2 autres sujets que j'aborde. Ce sont les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau.
Oui, c'est une sacrée référence, ça.
C'est une très belle référence et que je, tu vois, depuis que j'exerce, que je découvre de plus en plus et que je... Enfin, il n'y a pas à nier, quoi. Le travail qu'a fait Lise Bourbeau est un travail énorme et qui est un travail vraiment juste et pertinent, quoi. Et le dernier, c'est un qui est très, très, très important parce que je l'aborde systématiquement, quasiment au tout début de des accompagnements que j'opère, c'est l'enfant intérieur. La double personnalité, la double ou triple ou plusieurs personnalités qu'on a à l'intérieur de nous, c'est faire la paix avec ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme qu'on a à l'intérieur de nous, qui est resté un peu coincé à une période de notre vie.
Et comment on le retrouve, ce petit personnage, justement ?
Ah, on va le chercher. C'est la partie un peu délicate de l'accompagnement, parce qu'en général, elle est assez douloureuse, mais c'est un passage obligé. Et croyez-moi que c'est une douleur qui en vaut la peine, en fait, parce qu'elle soulage tellement. Dans mon message, je parle beaucoup de déposer le fardeau de ces douleurs passées. En général, déposer le fardeau, c'est d'aller chercher ce petit enfant blessé qu'on a. On va le chercher, on l'aide à grandir avec nous. J'ai pas une métaphore, mais l'explication, c'est un peu... vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je te disais, à 13 ans, j'ai dû devenir un adulte parce que mes 2 grandes sœurs sont parties de la maison et du coup, c'est elles qui prenaient un peu le lead dans la maison. Là, elles sont parties, c'est moi qui ai pris le lead. Eh ben, je suis resté bloqué à cet âge-là, en fait. Mon petit enfant est resté... Normalement, un enfant qui évolue, il est enfant, il profite de son innocence d'enfant, il grandit, puis à un moment donné, les parents, quand ils sont équilibrés, guident l'enfant pour faire le passage en douceur de l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'adulte, et tout ça se fait naturellement, ça se fait crescendo. Quand on a des ruptures comme ça, comme celle que j'ai vécue à 13 ans et à d'autres âges, l'enfant reste bloqué à cet âge-là. Et il reste bloqué le restant de la vie. Sauf si on vient le chercher, qu'on vient faire ce travail, qu'on vient lui prendre la main en lui disant « C'est OK, maintenant je suis adulte. Je suis adulte, quoi. Je maîtrise ma vie. Ne viens pas me titiller. » Parce qu'en général, quand on a toutes ces émotions refoulées qui viennent se réveiller, c'est le petit enfant intérieur qui vient nous titiller parce qu'il a vécu telle ou telle injustice, telle ou telle situation qui quand tu, à l'âge adulte, tu les revis, bah, ça te refait remémorer de façon inconsciente ces histoires. Donc, bah, c'est faire la paix avec ça et c'est l'accueillir, c'est l'accepter, c'est le pardonner. Je parle beaucoup de pardon aussi dans mes accompagnements, et non pas du pardon à l'autre, mais du pardon à soi-même. S'être laissé bloqué ou s'être laissé happé par ces douleurs et ces traumas. Parce que les traumas, c'est... ça va être un peu violent ce que je dis, mais je le dis quand même, c'est une décision. On décide de comment on réagit à un trauma. Soit il y a des personnalités, il y a des gens qui peuvent vivre très bien un trauma de la même façon, le même trauma, et avoir deux mentalités. Il y a des gens qui en font une force et des gens qui en font une faiblesse. Il y a des gens qui restent enfermés dans leur trauma toute leur vie, et il y a des gens qui, au contraire, parce qu'ils ont vécu ce trauma, ils sont devenus plus forts. Donc c'est une question de décision inconsciente, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jugement dans mes propos, mais il y a tout un travail à faire justement sur comment on a décidé de vivre ce trauma. Et en général, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont restés un peu coincés sur ce trauma et qui n'ont pas réussi à passer le cap de...
Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'un événement peut être un trauma pour un enfant, mais pas pour un autre, en fait. C'est-à-dire que tu vas vivre une situation, certains vont inconsciemment en faire quelque chose qui va les impacter négativement toute leur vie, et d'autres vont finalement l'utiliser inconsciemment pour se renforcer, se développer.
C'est ça. Ça, c'est tout un... J'avais lu un bouquin qui était assez intéressant sur ce sujet-là. Je n'ai plus le titre du bouquin, c'est dommage. Par contre, le bouquin confronte l'étiologie, alors ça, c'est la psychologie de Freud, à la téléologie, qui est la psychologie de Adler. Et justement, Adler lui dit le trauma, moi, je renie le trauma. Je nie le trauma. Enfin, le trauma existe, il le dit. Par contre, il dit, c'est pas le trauma qui te définit. C'est comment tu as décidé de vivre ce trauma qui te définit. Et c'est vraiment toute la subtilité. Alors que Freud, lui, c'est quelqu'un qui est dans la causalité. Moi, j'étais un peu comme ça. C'est OK, t'es comme ça aujourd'hui parce que t'as vécu ça. Alors, oui, t'es comme ça aujourd'hui parce que t'as vécu comme ça et parce que tu as décidé, inconsciemment, encore une fois, hein, y a pas de jugement, je précise, mais tu as décidé de vivre ce trauma de telle ou telle manière. T'as décidé de t'enfermer enfin, je prends l'exemple de ma maman, hein, elle a certainement vécu quelque chose dans son enfance ou dans sa jeunesse qui fait qu'elle est devenue alcoolique et elle est restée dans ce trauma toute sa vie. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu peut-être le même trauma que ma maman, mais qui n'ont pas fini dans l'alcoolisme et qui aujourd'hui ont des vies plus équilibrées, plus joyeuses.
Ok, David, merci beaucoup pour tout ça. Maintenant, si on a envie de se faire accompagner et de se faire traduire nos émotions, nous aussi, de découvrir notre enfant intérieur, où est-ce qu'on peut te retrouver pour faire appel à tes services?
Alors, comme je disais tout à l'heure, assez présent sur le réseau LinkedIn. J'ai mon site web davidparis.fr. Je suis présent sur Facebook, sur Instagram. Je vous invite hein, à vous abonner pour voir un petit peu ce que je partage. Et en tout cas, ça retrace un petit peu tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui via ce podcast. Il y a un prérequis, c'est d'être déjà un peu conscient de ce qu'on vit. C'est-à-dire des gens qui vont... Je vais pas aller chercher des gens qui sont pas conscients de ce qu'ils vivent et d'essayer de mettre en conscience, de les aider, enfin, de leur mettre en conscience en disant « Ah bah tu vois, t'as un problème, viens me voir, quoi. »
Et David, est-ce que ça suffit de se rendre compte qu'on a un problème, même si on n'a absolument aucune notion d'où est-ce qu'il peut venir ou est-ce qu'il vient d'un trauma, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, ces réactions-là, elles sont quand même sacrément bizarres, je pense qu'il y a quelque chose derrière, je pense que je fais un déni total parce que je n'ai absolument aucun souvenir, hein. On sait que le cerveau peut bloquer totalement des souvenirs dans des situations un peu traumatisantes. Est-ce que ça, c'est quelque chose, alors on n'a pas conscience de qu'est-ce que c'est exactement le problème, d'où il vient, mais est-ce qu'on peut venir te voir pour te dire, voilà, je sens qu'il y a ça parce que j'ai telle réaction, c'est pas logique, qu'est-ce que tu nous conseilles là?
J'ai envie de te dire, les personnes qui vont venir me voir, c'est des gens qui ont déjà un début de conscience, mais surtout de conscience de douleur, c'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose qui est douloureux dans leur quotidien. Ils ont des comportements qui, à un moment donné, ils se disent, je vais prendre mon exemple. J'étais quelqu'un qui était très en colère, et ça se répercutait sur mes enfants et ma femme. Il y a un moment, je me dis, mais je peux pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai pris conscience, mais aussi ma femme qui me disait, mais tu peux pas continuer d'être en colère tout le temps comme ça, les enfants, ils y peuvent rien, etc., etc. Donc, j'ai aussi mon environnement qui m'a mis face à mes comportements. Et à un moment donné, je me suis dit, bah oui, je peux pas continuer comme ça, faut que je fasse du travail sur moi, que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui va pas derrière tout ça. Donc là, je suis allé voir un coach et thérapeute, etc., pour essayer de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre les choses. Et c'est comme ça que j'ai été amené à à me faire accompagner. Donc, dans mon cas, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui a réussi à identifier qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son quotidien, quoi. Ça affecte son quotidien de façon régulière. Et du coup, donc, ce qu'on appelle le fameux problème dur, c'est difficile, urgent et reconnu. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien de difficile. Ça devient D'accord. urgent parce que ça fait vraiment longtemps qu'on vit le truc et là, on commence à atteindre les limites. Et le fameux reconnu, ben, ça y est, je reconnais qu'il y a un problème, quoi. Je sais pas ce que c'est. Et je vais aller voir un thérapeute parce que bah, justement, je ne sais pas, je ne comprends pas tout ça et le thérapeute va être capable de m'expliquer les choses, quoi, et de m'accompagner à comprendre.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, David, pour toute cette valeur que tu nous as apportée. On te remercie, on te retrouve sur les réseaux et sur ton site internet.
Avec plaisir, Delphine. Je te remercie, moi, encore une fois, pour cet espace d'expression qui est vraiment important et j'espère que j'ai pu... apporter un peu de conscience dans la tête de certaines personnes, parce que c'est tout le job de nous, la communauté des gens du bien-être, c'est de mettre en conscience des choses.
Et sans brusquer.
Ah, sans brusquer, ça c'est le béaba. La bienveillance, le non-jugement négatif, la confidentialité, et moi je mets tout ça dans une bulle d'amour parce que c'est très important, c'est la solution pour moi, c'est l'amour, versus la peur qui est un peu trop présente dans nos sociétés, et on est un peu trop drivé par la peur aujourd'hui, et controns ça avec de l'amour.
Parfait. Merci beaucoup, David. À très bientôt.
Merci à toi. Au revoir.